Bonjour, Symbiose, donc émission sur le libre au sens large. Aujourd'hui, on reçoit Philippe Aigrin. Philippe, est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement?
Bonjour, d'abord merci de m'inviter, merci d'inviter quelqu'un d'aussi peu anarchiste que moi. Je pense qu'on reviendra justement à un moment de l'émission sur la question du rapport à l'État. Mais merci surtout de prendre le temps d'explorer avec moi un peu en détail un domaine assez compliqué qui est celui de la relation entre la culture, Internet, les mécanismes de droit et juridique, et puis qu'est-ce qui se passe dans l'économie et dans la société. Alors, je suis informaticien de métier. J'ai été longtemps un chercheur en informatique. D'ailleurs, je le suis encore un petit peu. Chercheur en informatique, aussi bien dans des contextes d'entreprises privées que dans des contextes de laboratoires publics. Et j'étais un spécialiste de l'informatique appliquée aux médias, à la musique, à l'image, à la vidéo. Aujourd'hui, je dirige une société qui est une société à la fois productrice de logiciels libres et fournisseur de solutions pour le débat public et la démocratie participative sur des questions de politique publique. Voilà un petit peu le tableau.
D'accord. Et donc tu as été actif sur un certain nombre de sujets importants, enfin d'événements, etc. de ces dernières années. Donc tu étais actif sur la loi d'Avsi notamment.
En réalité, j'ai passé quelques années dans les services de la Commission européenne, dans la partie qui s'occupe de gérer les programmes de recherche. Mais à ce titre, j'étais un peu placé à l'interface entre la politique de la société de l'information et l'élaboration des cadres réglementaires sur les droits intellectuels. Donc c'est les choses qu'on regroupe sous cette appellation que certains critiquent à raison de propriété intellectuelle, mais les choses comme les brevets, le copyright, les droits d'auteur, et aussi les questions de protection des données. Et donc ça m'a sensibilisé à des enjeux que dont je n'avais peut-être pas vraiment découvert l'importance avant. Je suis devenu un peu un spécialiste des réflexions sur ces sujets, ce qui m'a fait écrire un livre qui s'appelle « Cause commune, l'information entre biens communs et propriétés sur les enjeux politiques, sociaux, culturels, économiques, des choix qu'on fait entre mécanismes d'appropriation ou mécanismes d'accessibilité, de partage.
Donc en fait, ton champ d'investigation dépasse celui du libre, hein, proprement dit. Ça touche également les questions de santé, de brevetabilité du vivant.
En fait, mon champ d'intérêt personnel, c'est ça recouvre toutes l'information et les activités de l'esprit qui utilisent l'information. Donc ça recouvre aussi bien le champ de la culture, le champ de l'expression publique, de l'espace public, des idées, le champ de l'innovation et des techniques quand c'est des techniques informationnelles, et le champ des connaissances du savoir scientifique et de comment il se diffuse. En réalité, c'est pas pour faire large par principe. C'est parce que tous ces domaines ont des problèmes voisins, élaborent des solutions voisines. Et donc, si on veut bien réfléchir, c'est utile d'avoir ce regard large.
D'accord. Bon, on va faire un petit tour d'horizon des nouvelles du libre, comme on a commencé à le faire. Donc, David est à la technique aujourd'hui, c'est la première fois. Donc, c'est moi qui vais parler un peu des nouvelles du libre. On a parlé au cours des dernières émissions, l'avant-dernière je crois, des questions de la vente liée. Donc la vente liée, je le rappelle, c'est le fait d'aller acheter un PC quelque part en supermarché ou à la FNAC ou ce genre de magasin et de se retrouver nécessairement avec Windows dessus sans savoir combien ça coûte par rapport au prix de l'ordinateur. C'est des choses dont on parle de plus en plus actuellement. La question commence à émerger, notamment dans des médias assez importants. Et bon, il y a des choses qui bougent de ce côté-là. Alors, il y a l'IPC, donc qui s'écrit avec 3 EPC, un tout petit portable sorti par Asus, qui est un truc qui est vendu à l'heure actuelle avec une distribution Linux et qui s'est vendu à 20 000 exemplaires à la fin du mois de mars et qui marche très très bien. Bon, la prochaine version aura du Windows, mais en soi, c'est pas un problème. C'est bien d'avoir la pluralité, mais c'est intéressant de voir qu'un ordinateur avec une distribution Linux peut se vendre au grand public et que ça marche. On a également des nouvelles moins bonnes. En fait, il y avait donc une Walmart donc aux États-Unis qui vendait un PC Linux dans ses supermarchés, qui a cessé la distribution de ce PC dans ses supermarchés, mais ils les vendent encore sur Internet. Donc, ce qui montre que bon, même si on arrive à vendre des IPC, c'est pas nécessairement quelque chose qui peut plaire à tout le monde immédiatement. On a également Darty qui vend des PC sans système d'exploitation, il commence. Donc ça peut permettre, si on veut mettre du Linux ou qu'on a déjà un Windows ou quoi, d'avoir le choix et de pas payer le système. Donc là-dessus, il y a quelques des choses comme ça qui bougent actuellement. Voilà, on a également, on avait parlé lors de notre émission sur le jeu de Rhizome, qui était donc un jeu massivement multijoueur, donc c'était une boîte française qui avait coulé et donc il y avait une tentative pour racheter le jeu et de le mettre sous licence libre et ça avait échoué. Et là, il y a eu une seconde chance de le faire et ça a encore échoué malheureusement. À chaque fois, il y a des investisseurs qui arrivent avec des gros chèques. Donc bon, peut-être que la prochaine sera la bonne. Voilà, on avait également David peut-être nous parler de Systematic.
Oui, donc il y a eu des pôles de compétitivité qui ont été lancés récemment, et donc notamment un projet qui s'occupe plus particulièrement de l'informatique, et dedans un sous-projet, là je parle sous le contrôle de Philippe Aigrin, qui je crois est concerné, donc qui s'appelle Systématique, et actuellement on a quatre projets qui ont obtenu des financements publics pour promouvoir l'innovation. Donc est-ce que Philippe, tu peux en dire un peu plus long?
D'abord, pour situer un peu le contexte, Systématique est un des 65 ou plus pôles de compétitivité qui existent en France. C'est aussi un de ceux qui visent les objectifs les plus ambitieux, et son domaine d'activité, ce sont les grands systèmes d'information pervasifs qui touchent tous les individus ou tous les domaines d'activité, ou qui ont en tout cas une surface très importante. Les Systématiques est un réuni des très grosses entreprises de Thales, Alcatel, mais lorsque c'est discuté il y a 2 ans la question de créer un pôle de compétitivité spécifique sur les logiciels libres, finalement la décision qui a été prise a été de ne pas en créer un séparé, mais de créer un groupe thématique sur les logiciels libres au sein d'un pôle existant. Alors, beaucoup de gens se demandaient un peu comment ça allait marcher, et je crois qu'après quelques mois d'expérience, on peut dire que ça marche pas mal, qu'il y a une véritable autonomie de gouvernance du groupe thématique sur les logiciels libres, et en même temps de bonnes relations qui sont établies avec Systématique. Et effectivement, ce premier appel où 4 projets, mais 4 projets seulement, on peut dire aussi, ont été labellisés qui relèvent du groupe thématique logiciels libres, c'est une première étape, et je crois une étape importante pour structurer le tissu des acteurs, qu'il s'agisse d'entreprises ou de laboratoires universitaires sur la région Île-de-France.
Et est-ce qu'on peut juste recentrer rapidement sur justement les objectifs en fait de ces projets en termes d'attendu? Quand on dit qu'on va financer 4 projets...
Je dois avouer que je ne connais pas de mémoire le détail du contenu de ceux des projets qui ont été réalisés. Les objectifs du groupe thématique logiciel libre en général, c'est d'une part de développer les types d'outils dont le développement de logiciels libres et leur passage à des échelles plus importantes ont besoin. D'autre part, c'est de professionnaliser et supporter par des nouvelles techniques les outils et la fourniture de solutions dans le domaine du libre, et puis c'est d'explorer les domaines dans lesquels le libre est un lieu d'émergence particulier de l'innovation, notamment tout ce qui est l'innovation à partir de l'usage, ce que certains appellent l'innovation ascendante, ou disons tous les, et cela, nous pensons que ça ne se développera que assez progressivement, parce qu'il faut bien dire que, en fait, même si au sein de l'écosystème du libre, il y a une activité, une véritable ébullition d'innovation sur les technologies du web 2.0, sur les technologies plus générales d'interaction entre des usagers distribués, la traduction en entreprise spécialisée dans le libre ou en laboratoire spécialisé est encore très rudimentaire. Hein, la société que je dirige, OpenSpace, c'est une des rares qui fait du libre dans le domaine des services web 2.0. Bon, il y en a d'autres. Hein, par exemple, grenouille.com a été un des premiers usagers de la licence Afero GPL V3, qui est une licence de logiciel libre spécialement conçue pour garantir la liberté d'applications qui sont distribuées sous la forme de services web. Hein. Bon, mais c'était encore dans un domaine assez technique, qui est l'étude de la performance des réseaux par les usagers. Hein. Ça se destine à tout le monde. Bon, nous essayons de travailler dans des domaines où on fournit vraiment des services web qui visent l'usager non informaticien. Et ça, c'est encore, je dirais, un domaine émergent d'activité du web, au moins en France.
D'accord. Alors bon, pour continuer sur les nouvelles du libre, on a quelque chose, donc Sagem intègre Linux dans ses prochains modules GSM. Donc voilà, enfin ça c'est des applications industrielles qui sont pas visibles pour le grand public, mais bon, ça c'est toujours intéressant. Ça montre que les choses se développent. On avait également, oui, Acer, donc qui est un intégrateur, enfin un constructeur de matériel, va sortir une console de jeu. Qui sur une base PC en fait et qui là encore va fonctionner à base de Linux, ce que je trouve assez intéressant parce qu'on sait que bah, le jeu est quand même un moteur assez important pour pousser les gens à adopter un système d'exploitation, et dès lors qu'on a une console de jeu, les studios vont probablement commencer à produire des jeux, et s'ils tournent sur cette console, on a de bonnes chances de les avoir qui tournent sous Linux, et ce sera une bonne motivation pour avoir des drivers de cartes graphiques qui fonctionnent et pour avoir des jeux qui tournent sous Linux. Et on sait, Olivier Lejeune nous l'avait dit pendant notre émission sur le jeu vidéo, que c'est pas évident de faire du jeu libre, entièrement libre. Donc c'est intéressant, ne serait-ce que bon pour la pub que ça peut faire pour Linux. Alors, on a également des nouvelles là au niveau de la surveillance, etc. Notamment le fait que la justice et la police mettent en place des systèmes de surveillance du réseau, notamment pour tout ce qui est échange de fichiers qui sont hors la loi et ce genre de choses. Donc là-dessus, la surveillance commence à se mettre en place, mais on en reparlera un peu plus tard, je pense. C'est des choses qu'on va évoquer. Voilà. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Ah si, on a la mairie de Marseille qui vient d'adopter OpenOffice, qui est l'outil de bureautique libre, et la mairie de Marseille fonctionne avec ça désormais, ce qui est assez intéressant. Et donc une nouvelle, là Philippe, il y aura sans doute des choses à dire, donc sur OpenXML, qui vient d'obtenir son label ISO, et ça c'est pas une catastrophe, mais c'est pas une bonne nouvelle.
Disons d'abord pour nos auditeurs qui ne seraient pas au fait de ce qui est caché sous ce sigle, en fait ce qui se passe, c'est que depuis des années il y a un effort de promouvoir pour tout ce qui concerne la bureautique, les traitements de texte, les tableurs, les bases de données, les logiciels de dessin et de présentation, des formats ouverts, et il y a un mouvement croissant pour faire que, notamment dans le champ des administrations, mais plus généralement dans celui de tous les usages, seuls des formats ouverts puissent être utilisés. Donc il y a un enjeu énorme à définir qu'est-ce qui peut être ou non reconnu comme un format ouvert. Depuis longtemps, il y a un format qui s'appelle Open Document qui a été construit par des consortiums de fournisseurs divers de logiciels de bureautique et qui a été admis comme norme et qui est aujourd'hui, disons, le format ouvert, je ne dirais pas unique, mais dominant dans le champ de la bureautique. Depuis longtemps, Microsoft refuse de se rallier à OpenDocument, ce qui pourrait parfaitement faire, mais à l'opposé, fait le choix de promouvoir un format maison qu'ils ont conçu, qui est un format extrêmement complexe, dont la description fait 8000 pages, qui n'est mis en œuvre, et encore, on n'est pas sûr jusqu'à tel point, que par eux-mêmes, et qu'ils poussaient au sein de l'Organisation internationale de normalisation.
Voilà. Et ça, c'est OpenXML dont on parle.
Voilà. C'est une organisation qui réunit 180 pays, avec des droits de vote différents, enfin, c'est assez complexe, mais toujours est-il qu'il y avait une espèce de bataille planétaire de réseaux d'influence et de pression pour savoir si oui ou non ce format que beaucoup critiquaient comme n'ayant pas vraiment les propriétés d'un format ouvert serait accepté par l'Organisation internationale de normalisation. Il y avait un premier vote où beaucoup de pays n'avaient dit qu'ils ne pourraient l'accepter que sous des conditions et de très nombreuses conditions. Et le sentiment général de beaucoup d'analystes était que Microsoft n'avait pas convaincu, n'avait pas vraiment répondu à ces demandes de précision ou de modification. Malgré ça, suite à un processus de lobbying d'une ampleur qu'on avait rarement connue, au moins géographiquement, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir dans des pays comme la Tanzanie ou la Malaisie des véritables hordes de lobbyistes essayant d'obtenir la décision, Microsoft a obtenu un vote positif. Et alors, c'est une mauvaise nouvelle. Ça ne va pas empêcher le déploiement d'OpenDocument. Il y a des tels avantages à ce format qu'il va continuer à être déployé. Mais ce que ça va faire, qu'il y ait aussi un format Microsoft reconnu, ça va permettre aux gens qui traînent les pieds face à l'interopérabilité de continuer à les traîner plus longtemps. Et donc, ce que ça va faire, eh bien, c'est qu'il y a quelques dizaines de milliards d'euros supplémentaires qui vont passer des poches des citoyens et des consommateurs vers celles des profits de Microsoft. J'exagère pas sur les chiffres. Hein, les profits nets de l'activité bureautique de Microsoft, c'est 10,7 milliards de dollars par an pour la dernière année qu'on connaît. Et bon, si on pense que ça va retarder sur une période de 5 ou 10 ans, c'est vraiment... une occasion manquée, mais bon, on a manqué beaucoup d'occasions, mais on a, je crois, aussi prendre quelques-unes.
Voilà, les conditions du vote sont intéressantes, hein, puis ça va rejoindre un petit peu les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, et notamment sur la question de... A priori, on sait que, notamment pour la France, où il y avait des gens qui étaient présents, notamment du monde associatif, grosso modo, les représentants qui étaient là étaient plutôt contre et se dirigeaient vers un vote contre, et ça a été finalement voté, enfin en tout cas, il y a eu une abstention de la France, et en fait, tous ces organismes sont quand même assez obscurs dans leur fonctionnement, sont des trucs donc avec des entreprises, la représentation est faite un petit peu de façon très très obscure et on ne sait pas exactement pourquoi la France s'est abstenue et n'a pas voté contre.
Alors on ne sait pas exactement, mais on sait que deux représentants de direction de ministère du même ministère, ministère de l'économie et des finances, ont changé leur vote par rapport à ce que l'on pensait. Pourquoi il faut leur demander aux gens qui leur donnent des instructions. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des organismes qui traditionnellement avaient été favorables à l'interopérabilité, aux normes ouvertes, quand même joué un rôle très positif et très important dans la conception du référentiel général d'interopérabilité. Il ne faut pas penser nécessairement que ça va arrêter les politiques en faveur de l'interopérabilité. Bon, la France s'est abstenue, l'Allemagne a même voté pour, alors que l'Allemagne avait été un promoteur ardent des politiques de l'introduction du libre dans les administrations et des politiques d'interopérabilité. Donc bon, on mesure effectivement ce qui peut se passer dans les processus de décision quand ils sont soumis au type de pression qui ont existé dans ce cas-là.
D'accord. Donc pour finir sur les nouvelles du Libre, on a In Libro Veritas qui donc on avait reçu pour la deuxième émission de Symbiose, donc il y a un peu plus d'un an. Donc il fait de l'édition de textes sous licence libre ou de libre diffusion et qui vient de lever 16 millions de dollars, je crois, pour se développer. Donc qui va leur permettre de passer une échelle supérieure. On espère qu'ils ne seront pas grisés par l'argent, etc. Ça fait une somme conséquente. Mais en tout cas, voilà. Donc c'était les nouvelles du Libre. Philippe, on va commencer attaquer le gros du sujet. Donc on va plutôt attaquer la question sur les questions culturelles, hein, sur ces choses-là. Donc on a entendu beaucoup parler des histoires de copies, on a beaucoup entendu parler toutes les maisons, les majors, les maisons d'édition musicale, etc. Dire que c'était plus possible, qu'ils perdaient des sommes, qu'on les volait en copiant de la musique sur Internet, etc. Donc toi, tu as été voir un petit peu ce que ça peut représenter déjà financièrement et sans jouer. Est-ce que tu peux nous faire donc un panorama?
Moi, je me mets un peu à la place de quelqu'un qui aurait pris des longues vacances sur une autre planète pendant 20 ans et il reviendrait maintenant et puis serait confronté au discours, à l'abîme qui sépare les discours sur le rapport entre la culture et Internet. C'est-à-dire, il y aurait d'un côté des gens qui disent « c'est terrible, c'est en train d'anéantir la production culturelle, il faut de toute urgence nous donner des dispositifs qui vont empêcher hein, la liberté des échanges sur Internet d'exercer ses méfaits. » Et puis, à côté de ça, il y a des gens qui disent « c'est une merveilleuse opportunité pour le développement de la création et de l'accès à la culture. C'est fantastique, ça va favoriser la diversité culturelle, ça va permettre aux auteurs d'atteindre un public, ça va développer des activités culturelles dans la société. » Bon. Alors pourquoi il peut y avoir des discours avec un tel fossé, quoi? Et en général, quand il y a bien sûr, il peut y avoir la mauvaise foi, mais quand il y a ce genre de fossé, c'est que les gens regardent pas la même chose. Et donc, mon premier travail, quand j'essaye d'analyser le champ de la culture et d'Internet, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde toutes les activités culturelles ou est-ce qu'on regarde seulement celles qui donnent lieu à des transactions économiques? Et puis, parmi celles qui entrent dans une économie pour l'activité elle-même, est-ce que on regarde seulement la vente de biens culturels ou est-ce que on regarde toute l'économie de la culture? Par exemple, est-ce qu'on regarde aussi l'enseignement, les concerts, les instruments, les appareils numériques? Dans les deux cas, c'est-à-dire la comparaison entre les activités non économiques et les activités économiques, ou à l'intérieur de l'économie, la comparaison entre la vente de, par exemple, de musique enregistrée et les activités économiques qui entendent la musique, on se rend compte que la raison des divergences, c'est qu'il y a des gens qui regardent large et puis il y a des gens qui regardent un petit espace microscopique. Alors pour vous donner des idées concrètes, parce que là ça reste abstrait, je prends l'exemple musical, mais je reviendrai plus tard si on a le temps à d'autres exemples comme ceux qui portent sur le cinéma et l'image animée. Le quart des Français disent qu'ils savent jouer d'un instrument de musique, hein, dans les enquêtes. Donc ça fait 15-16 millions de personnes. C'est beaucoup. Parmi les gens qui disent « j'ai une pratique culturelle en amateur », il y en a deux tiers, c'est la musique et le chant. Donc le rôle de la musique dans la pratique culturelle de base, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Bon, à côté de ça, bien sûr, il y a une économie de la musique. D'abord, il y a une économie de la fourniture de moyens à la musique, hein, c'est-à-dire bon, les instruments ou à sa diffusion, les appareils, les communications, etc. Mais il y a aussi une économie propre à la musique. Par exemple, il y avait en 93, il y avait environ 45 000 professeurs dans des écoles spécialisées privées et publiques. Il y en avait environ 8 000 dans l'enseignement non spécialisé public, c'est-à-dire les profs de musique dans les collèges, lycées et le supérieur, et quelques-uns qu'il y a dans le primaire. Et un nombre très difficile à estimer de gens qui exercent à titre individuel dans l'économie déclarée et dans l'économie informelle. Alors, l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que le seul enseignement de la musique, ça représente au minimum 3 milliards d'euros par an. Et ça, 3 milliards d'euros par an, c'est le triple du marché de la musique enregistrée en France. Suivant les années qu'on prend, le marché, c'était il y a quelques temps 1 milliard 2, maintenant c'est environ 860 millions d'euros. Donc rien que... Or, je ne sais pas si vous avez suivi les articles de presse, les débats sur la musique, mais l'enseignement, vous n'en avez entendu parler que dans les discussions sur l'exception pédagogique. Vous n'avez jamais entendu parler du fait que ça soit un enjeu culturel, économique, l'enseignement.
Et pour le coup, en plus, c'est un enjeu économique où on a des gens qui, dont c'est le boulot, et il ne s'agit pas simplement de comment dire des bénéfices d'une multinationale mais de gens qui travaillent et dont c'était une source de revenus quoi.
De la même façon, si on regarde dans les revenus, bon, il y a 50 000 musiciens et danseurs interprètes professionnels en France, hein, qui sont des gens dont l'immense majorité des revenus est au cachet. Et une partie provient des droits voisins qui ont été récemment, disons au moins étendus dans leur définition. Et ça, c'est quelque chose qu'on va trouver partout, c'est-à-dire y compris pour les auteurs-compositeurs dont s'occupe la SACEM, 80% de leurs revenus proviennent de sources qui n'ont aucun rapport avec ce que peut impacter l'échange de fichiers sur Internet. C'est des choses du genre le spectacle vivant, la licence légale pour la radio, la licence pour la télévision, l'export, la diffusion de la musique enregistrée dans l'espace public, là, ce qui motive toutes les hordes d'inspecteurs de la SACEM qui vont visiter les salons de coiffure, les magasins de vêtements. Donc tout ça, c'est 80% des revenus des auteurs-compositeurs. Et je voudrais bien qu'on m'explique comment ça va tellement souffrir de ce que pourrait être une légalité. Alors, maintenant, le fait que ça soit tout petit, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas inverser le discours. Moi, je dis regardons large, regardons tout l'univers.
Oui, en tout cas, quand on dit que ça va tuer la musique, on voit que la musique, ne serait-ce que dans sa partie financière, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en dehors du disque, quoi.
Moi, je suis profondément convaincu que ça ne va pas tuer même la musique enregistrée. Je veux dire, même les activités économiques de la musique enregistrée. Par contre, ça va faire souffrir, et ça a déjà... Peut-être, on dit, c'est excessif de dire que ça a déjà fait souffrir les modèles, certains modèles commerciaux de la musique enregistrée, parce que en réalité, autant l'édition musicale en nombre de titres des majors s'est rétrécie, autant leur profit, non. qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont concentré les cinq sociétés qui sont les grandes sociétés de l'édition de disques et encore plus de la distribution de disques, qui contrôlent 70% de l'édition et 95% de la distribution. Elles ont diminué le nombre de titres qu'elles éditent. Elles ont concentré la promotion très fortement sur un petit nombre de titres parmi ces titres-là, mais le revenu moyen par titre a continué à augmenter et les profits en proportion. Voilà donc un peu l'espèce de paysage. Ça dit pas ce qu'il faut faire, mais ça situe, disons, l'intérêt qu'il y aurait à prendre en compte, moi je dis toujours un écosystème, j'abuse peut-être de ce terme, mais un ensemble plus large d'activités et de dimensions économiques, culturelles, sociales.
D'accord. Donc une fois qu'on a ça, enfin donc les majors pèsent très très lourd sur en demandant toute une série de droits exceptionnels, etc., de mesures, tu les évoquais tout à l'heure. Est-ce que tu peux les détailler un petit peu plus? Parce que on vient de parler d'argent, mais il y a d'autres coûts, enfin ce que j'appelais des coûts, qui sont en termes de liberté, de droits des individus. Qu'est-ce qui se met en place aujourd'hui, et ces dernières années? Et qu'est-ce qu'on a comme perspective?
Alors, moi, je me suis fait un principe de morale personnelle de jamais me laisser prendre trop de temps par la critique des choses nuisibles, toujours mettre suffisamment l'accent sur la construction positive de solutions utiles. Et donc, je dirais que avant tout, le gros problème avec l'influence que les grands groupes de l'édition ou de la distribution ont sur les décisions en matière de cadre réglementaire, c'est les occasions manquées. C'est-à-dire, il y a des tas de choses qu'on pourrait faire pour créer des conditions plus favorables pour la création, pour le financement des activités créatives ou le financement des conditions de vie des individus qui se livrent aux activités créatives, et qu'on n'a pas considéré, qu'on n'a même pas étudié dans le débat public, tout simplement parce que c'était interdit de les regarder par les acteurs qui avaient une influence déterminante sur la décision publique. Exemple très concret, lorsque M. Oliven a inauguré les travaux de sa commission, il a dit « Nous ne parlerons pas de la licence globale, car personne n'en veut.
Alors même qu'elle avait été votée...
C'était très amusant, si on voulait le prendre sous l'angle de l'humour, c'était très amusant parce que le Canada, la Suède, l'Allemagne voyaient monter sans arrêt les propositions sur ces sujets. Et puis, quelques mois, peut-être même semaines plus tard, une autre commission mise en place par le même gouvernement, sans employer le mot, la recommandait directement.
Puis, pendant le premier vote de la loi d'AFSI, on avait fait notre première émission là-dessus. Il y avait eu un vote qui avait complètement retourné le principe de la loi, du projet de loi, et qui avait justement parlé de licence globale. Et ça a été revoté par le ministre, fait revoter par le ministre de l'époque, après que les députés aient été mis, qu'on les ait rappelés à l'ordre et qu'on ait mis de.
C'est exact, mais.
Donc, dire que personne n'en veut alors que ça avait déjà été voté, c'était.
Enfin, ça avait été voté. Comme un amendement en première lecture, donc évidemment, ce n'était pas définitif. Effectivement, on a un peu serré les boulons du côté de certains groupes parlementaires. C'est pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent, mais l'idée même de la mutualisation sociale sans atteinte aux libertés, les idées de licence globale et toutes les idées, c'est créer une sphère d'échanges non commerciaux qui se déroule dans la liberté, qui n'est pas nécessaire de surveiller au niveau des usages individuels, même si il faut éventuellement les observer pour savoir comment répartir le produit d'une licence globale. Et cet espace de liberté, on se sert de son institution pour mettre en place un mécanisme qui va financer les conditions de la création et la rémunération des créateurs en fonction de l'intérêt que le public leur a apporté. Donc ça, ce mécanisme-là, il est non seulement il n'est pas question que l'idée disparaisse, parce que c'est une idée qui a un tel poids de simplicité et de possibilité de mise en œuvre qu'il est très improbable qu'on arrive à l'enterrer. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, les mêmes groupes qui ont envoyé tous leurs lobbyistes à l'assaut de l'idée, aujourd'hui, l'ont repris à leur compte, sauf que c'est pas la même licence globale qu'ils veulent, eux. C'est une qui ne donnerait pas de droit aux usagers, mais qui serait simplement un accord entre les groupes d'édition et les fournisseurs d'accès.
On voit ça sur l'offre de Neuf, là, où quand on est abonné chez Neuf, on a accès à un bout du catalogue de Universal, je crois. Ce sont des titres avec des DRM, hein, donc les DRM c'est un système de protection, donc en fait on a accès qu'à une partie du catalogue d'un éditeur et on y a accès que alors déjà il faut voir le matériel compatible, c'est-à-dire que si son lecteur MP3 est pas compatible on peut pas l'écouter et on y a accès que le temps où on est abonné, c'est-à-dire que c'est plus de la musique, on est habitué à, quand on achète un CD, à avoir acheté sa musique, et là en fait c'est une musique auquel on a accès uniquement quand on est abonné chez Neuf, et du jour où on quitte Neuf on perd l'accès à sa musique. Enfin, je vais pas trop parler du côté négatif, mais enfin moi ça me semble quand même important. Enfin, il y a quand même des systèmes donc de la riposte, la notion de riposte graduée où on met en place une surveillance systématique, où on prend en considération que les gens sont nécessairement coupables, où là on fait des parallèles avec par exemple la circulation automobile. En disant bon bah on surveille les gens mais des radars automatiques, donc on va faire des sortes de radars automatiques. On a parlé de supprimer la connexion internet des gens qui copieraient des fichiers. Il faut savoir que derrière c'est une surveillance qui est conçue par des sociétés privées, donc il y a une forme de privatisation de la police, de riposte systématique sur des trucs qui sont difficiles à mesurer, donc on ne sait pas si on échange des fichiers légaux ou pas. Il y a quand même je vais peut-être pas trop rentrer dans le sujet, mais
il faut quand même
des choses
rassurez-vous, je résisterai pas jusqu'au bout à parler des choses que je juge nuisibles. Il est exact que il y a une série de projets qui ont été annoncés ou même dont les brouillons ont été publiés, qui sont des projets de loi ou des projets de règlement pour certains, mettent en place des mesures qui sont très préoccupantes. Mais le plus préoccupant derrière, c'est l'idée qu'on ne tire aucun enseignement du fait que les démarches précédentes n'aient pas fonctionné.
Oui,
c'est-à-dire, on a fait une loi sur mesure pour les DRM, donc les DRM, encore pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est, ce sont des systèmes qui étaient conçus pour contrôler dans le détail ce que faisait un usager avec des œuvres dont il aurait acheté le droit d'accès en termes de copie, d'usage, les consommateurs ont rejeté massivement les premiers essais de déploiement des DRM, sauf lorsqu'il n'y avait vraiment aucune solution alternative. Et encore, hein, je pense au cas du DVD, qui était plus quand même un dispositif de contrôle d'accès que vraiment un dispositif de DRM. Donc, les citoyens, quant à eux, ont émis de graves inquiétudes, l'expression de graves inquiétudes sur la réduction des droits d'usage normaux de la culture que représentaient les DRM. Mais ça n'a empêché en rien qu'on fasse une loi, d'abord un traité international, puis une directive, puis une loi qui transposait ça. Et à chaque fois, on en rajoutait. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que c'était uniquement une traduction du précédent. On rajoutait des dispositifs. Par exemple, dans la loi d'AFSI, on a rajouté des dispositions qui rendent les DRM potentiellement obligatoires, qui n'ont jamais été appliquées. Je ne sais pas si elles le seront un jour, mais tout ça donc a été fait sur mesure pour un projet, et le jour où ça a été finalement adopté, les gens même qui l'avaient réclamé ont dit « Oh, finalement, c'est pas bien les DRM, il nous faut autre chose ». Mais ils n'ont pas du tout proposé qu'on révise la loi et qu'on supprime les dispositions concernant les DRM. Ils ont dit « Non, il nous faut une loi en plus ». Alors maintenant, il nous faut une loi en plus, et c'est celle qu'a codifié pour leurs soins l'un d'entre eux, donc Monsieur Oliven était à l'époque PDG de la FNAC, qui était opérateur d'une plateforme de distribution de téléchargement dit légal, hein. Et il a proposé de rajouter une série de dispositifs qui sont disons, l'automatisme de la surveillance et des sanctions, une délégation partielle à un étrange objet semi-public, semi-privé, qui est cette nouvelle haute autorité qu'il propose de créer, dans lequel il y aurait à la fois, qui aurait à la fois des rôles policiers et des rôles judiciaires, et qui permettrait de lever un des grands verrous à la surveillance généralisée actuellement, qui est l'anonymat des adresses IP, hein, c'est-à-dire le fait que seule une décision judiciaire peut dire à qui appartient une adresse IP. Donc ça permettrait d'automatiser ces processus. Et alors là, je vous remercie d'avoir mentionné le fait qu'on justifie ça avec les dispositifs, à mon avis, justifiés qui existent en matière de sanctions automatique pour les infractions dangereuses au code de la route. Alors là, c'est vraiment une illustration frappante du fait que chaque fois qu'on prend quelque chose qui fait sens dans le domaine des activités physiques et qu'on le projette dans le champ de l'information sans réfléchir à si les conditions qui lui donnaient du sens sont toujours vérifiées, on aboutit à des absurdités. Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que, alors que l'excès de vitesse au volant, il ne se trouvera personne de bonne foi pour dire que c'est pas quelque chose de nuisible, hein, le partage non commercial de fichiers entre individus, il y a un débat absolument ouvert sur le fait de savoir si c'est nuisible ou utile. Donc moi je défends, mais je suis pas le seul, et beaucoup d'études l'ont montré, que c'est qu'un partage, notamment s'il était légalisé et qu'il avait plus besoin de se dérouler dans une semi-clandestinité, favoriserait la diversité culturelle, les ventes de musique enregistrées, hein. Par contre, ça rendrait beaucoup plus difficile la fabrication a priori de best-sellers. C'est-à-dire, il y aurait toujours des best-sellers, bien sûr, hein, parce que le goût humain se renforce, se concentre naturellement par des phénomènes, et puis la technique contribue souvent à amplifier ces phénomènes de concentration de goût pour une œuvre, hein. Donc ça existera toujours. Aujourd'hui, ce que veulent les tenants de certains modèles commerciaux, c'est pouvoir décider ce truc-là, ça sera dans le top 40 qu'on va passer en boucle sur toutes les radios des françaises pendant un mois, et on sait que ça sera un best-seller de ce seul fait.
Parce que quand on fait des affaires, on a besoin que ce soit prévisible. Ouais. Parce que voilà.
Ouais. Mais disons, l'entrepreneur que je suis peut dire, bon, c'est vrai que c'est dur de vivre sans savoir si les choses vont marcher, mais c'est un bon aiguillon pour essayer de les faire le plus intéressantes possible quand même.
C'est à double tranchant. On va écouter un morceau, donc la musique aujourd'hui, donc c'est un groupe au nom japonais, mais qui n'est pas japonais, donc Makunouchi Bento, dans la musique électronique expérimentale. Après ça, on va parler un petit peu de notion de gratuité, qui est un petit peu le grand Satan des majors, ce qui nous permettra de voir un peu les solutions alternatives qui existent. Donc Symbiose, on est de retour après ce court morceau. La gratuité, c'est une notion, enfin c'est un petit peu présenté, j'ai eu comme ça un certain nombre d'articles un peu indignés en disant qu'il n'y avait rien de gratuit ou que c'était un petit peu l'utopie ou une sorte d'insulte. Il y a des bouquins qui ont été écrits sur le sujet, qu'est-ce que c'est que cette notion ?
Alors, la gratuité, c'est vraiment un des concepts les plus polysémiques, hein, des concepts qui a plusieurs sens différents, les plus flous et les plus contradictoires qui soient. Et ça explique que vous puissiez avoir un livre qui devait s'appeler, dont le titre devait être « La gratuité, c'est le vol », et d'autres qui considèrent que la gratuité est le régime normal d'échange de l'information. Là, je pense à des ouvrages, disons, d'un côté de Pascal Oliven et de Olivier Bomsel, et de l'autre de quelqu'un comme Jacques Attali, hein, ou Phil Axel. Alors, on entend effectivement souvent dire « rien n'est gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye pour chaque chose hein. ». Et ça, c'est à la fois faux et vrai. Et c'est très intéressant de regarder comment. Et je vous propose de commencer par regarder en quoi c'est faux. Donc, supposons que vous ayez une fille qui... c'est peut-être pas l'âge d'avoir des filles qui jouent de la clarinette, mais moi si. Vous avez une fille qui joue de la clarinette dans votre appartement. Et alors, c'est un son très agréable, c'est très doux. Et puis, de temps en temps, il y a une espèce de couac torturé qui est moins doux, mais quand même, c'est un son très agréable. Il est certain qu'il n'y a personne qui paye pour qu'elle joue. Et il n'y a non plus personne qui paye pour que vous l'écoutiez. Par contre, il y a des gens qui ont payé pour qu'il soit possible qu'elle joue et que vous l'écoutiez. Ils ont payé pour qu'elle ait un instrument à sa disposition. Ils ont payé pour qu'elle puisse prendre des leçons. Ils ont payé pour qu'existe une école où elle a trouvé un espèce de big band amateur de jazz où elle a pu jouer avec d'autres gens. Et cette distinction-là entre payer pour une chose et payer pour que cette chose existe, elle est au centre de toutes les choix qu'on fait sur la relation entre la culture et l'économie. Et ce que je veux dire sur la gratuité, c'est que dans le champ de l'économie, en réalité, on se rend compte que l'essentiel des activités culturelles ont toujours eu une part très importante de gratuité. Mais par contre, on a mis en place, à travers toute l'histoire, des moyens de rendre possibles les activités culturelles. Pour qu'un musicien produise quelque chose que d'autres ont envie d'écouter, il y a eu tout un temps considérable de construction du savoir. C'est pas l'investissement de faire un disque qui compte, hein, c'est l'investissement d'acquisition des compétences pour avoir l'idée et le savoir-faire de faire quelque chose. Et donc ça, ces conditions-là, on les a toujours, on en a mutualisé le financement. Parfois à travers l'État, à travers l'impôt, à travers des institutions publiques, parfois sur le plan de la société. Et puis, il y a une part d'activités qui ont donné lieu à des transactions économiques. Aller au concert, aller au théâtre, aller dans une salle de cinéma, ça veut dire, c'est quelque chose qui se déroule dans l'espace public avec la présence physique d'une personne, avec un service qui est rendu par la personne. Alors dans le cas du cinéma, c'est, je pense là aux projectionnistes, hein, et aux gens, et pas et aux caissiers et aux gens qui font vivre le cinéma. Je pense pas aux acteurs, ils sont plus là à ce moment-là. Mais dans le cas du concert, du spectacle, de tout ce qui relève du spectacle vivant, c'est un service. Et ça a toujours fait l'objet d'un financement mixte. Il n'y a que dans des sociétés extrêmement inégalitaires et élitaires que c'était intégralement payé par le financement des billets, mais dès qu'on est entré dans l'ère de la démocratisation culturelle, le financement de ces activités a été mixte, mais la part de transactions économiques, elle est très importante parce que c'est par elle que le public a le moyen d'exprimer le désir très important d'entrer en relation avec des artistes. Et c'est cette dimension-là, je ne crois pas du tout qu'elle disparaîtra, y compris dans l'achat de supports, même des supports qui ont aussi peu de valeur ajoutée qu'un disque. Moi, j'étais au Quartz de la musique électronique. Merci d'avoir passé un petit morceau de musique électronique là maintenant, mais que je ne suis pas du tout musicien moi-même. Mais il y avait un label qui était là, donc, je suis désolé, CD1D, je crois qu'il s'appelle, et qui disait « télécharger, c'est découvrir, acheter, c'est soutenir ». Bon, ça, ces modèles-là, ils existeront et ils continueront à exister, même dans la situation où il y aura une sphère d'échange gratuit et libre, à condition qu'ils ne visent pas le profit dans la sphère des échanges entre individus. Et c'est donc loin de moi l'idée de dire qu'il y aurait il faudrait promouvoir une gratuité totale de tout. Et je prétends même que ce n'est pas du tout ce que les internautes on insulte fréquemment sur ce plan en disant Internet a installé une culture de la gratuité absolue, ils veulent plus payer pour rien, alors qu'ils payent des sommes considérables. Ils payent pour leurs appareils, les ordinateurs, les baladeurs, les tout. Ils payent pour les communications et les abonnements à Internet. Mais souvent, ce qu'on oublie allègrement de dire, ils payent aussi pour s'acheter des home studios, pour des pratiques, une espèce de pratique intermédiaire entre la vraie la création musicale professionnelle et le qui sont pas du même registre que les pratiques d'amateurs de l'instrument simplement, mais bien sûr sont souvent combinées avec elles. Donc en réalité, je ne crois pas du tout que les internautes rejettent l'idée même du paiement. Et les études, par exemple, des études du département des études et de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture montrent que les internautes, ceux qui passent le plus de temps sur Internet, se retrouvent massivement dans les gens qui font le plus deux activités, l'écoute de la musique enregistrée et la sortie en salle au cinéma. C'est quand même une indication que la relation entre gratuité et activité payante n'est pas aussi simple que les gens qui disent qui décriraient une population de consommateurs qui ne rechercheraient que des effets d'aubaine de la gratuité. En réalité, c'est pas ça. Moi, je crois que ce qui est vraiment l'élément déterminant, c'est le fait qu'il y ait rien dans le chemin de l'accès à l'œuvre.
C'est un des trucs, une des ambiguïtés qu'il y a dans les discours, c'est que par Internet, c'est facile de télécharger des centaines d'heures de musique, mais c'est une autre chose de l'écouter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut remplir un disque dur de musique. J'avais acheté récemment, c'est un exemple, j'ai acheté un disque dur externe de 500 gigas pour mes archives. Et je me suis dit, mais si je le remplissais entièrement de musique, combien de temps de musique ça me ferait? J'avais calculé, je sais plus, là, qu'il me fallait 3 ans, en écoutant de la musique toute la journée, il me faudrait 3 ans pour écouter 500 gigas de musique. Donc ça devient l'absurde. Et c'est vrai que dans les critiques qu'il y a sur le téléchargement, on dit, on a un fichier, donc on doit le payer. Avec cette idée qu'à partir du moment où on a de la musique, on aurait comme une sorte de capital. Alors qu'au final, ce qu'on paye, ce qui a de la valeur, c'est pas le fichier en lui-même, c'est l'usage qu'on en a, ou en tout cas le fait de, c'est ce qui permet de l'amener du support jusqu'à notre oreille. Un fichier qui n'arrive pas jusqu'à notre oreille n'a pas d'existence.
Oui, je peux pas ajouter grand chose à ce que vous avez dit parce que c'est très bien expliqué, donc je ne peux pas y ajouter grand chose, mais simplement peut-être un point. C'est que vous avez insisté sur le paramètre du temps. Et si on veut comprendre, disons, la violence des débats d'idées qui entourent ces sujets, la ressource rare dans l'espace des activités culturelles, c'est le temps des individus. Donc c'est, moi j'ai beaucoup fait d'études de budget temps, et si on n'analyse pas les budgets temps, on ne comprend pas pourquoi diable ça serait tellement un problème, par exemple pour les éditeurs ou les télédiffuseurs, que se développe une sphère d'activité plus libre et d'usage aussi, de réutilisation des œuvres. Et en fait, ce qui leur échappe, c'est pas du tout le manque à gagner dont ils font état en disant « on ne m'a pas payé pour montrer ». C'est, en fait, ce qui leur échappe, c'est le temps des individus. Et ça, c'est la ressource rare. Et c'est une de celles sur lesquelles nous avons aujourd'hui une certaine souveraineté, un certain contrôle comme individu, et qu'on aimerait bien pouvoir, disons, encercler, canaliser.
Oui, mettre des compteurs dessus, quoi.
Et c'est d'autant plus important que nous vivons une époque finalement fascinante, parce que en 50 ans, on avait laissé la télévision capturer 3h30 par jour du temps des individus. C'est un phénomène historique qui s'est jamais vu dans l'histoire. D'abord, l'expansion du temps libre est elle-même un phénomène historique, mais que un seul média, une seule situation de réception largement passive d'un type de contenu ait capturé la moitié du temps libre des individus, c'est à peine croyable. Or, c'est en train de changer. C'est-à-dire, on est en train de s'émanciper du temps de la télévision. Et toute la question, c'est est-ce que cette émancipation va se faire au profit d'activités qui ont une dimension expressive, créative, d'échanges sociaux avec les autres, ou est-ce que ça va se faire au profit de nouveaux médias qui captureront le temps de la même façon que la télévision l'avait fait auparavant. Ça, c'est vraiment, pour moi, l'enjeu culturel majeur de notre époque. Et la télévision continuera, bien sûr, à exister.
Donc, David ?
Oui, alors, on a eu une question d'un auditeur qui voulait savoir si on pouvait juste présenter rapidement le coût de production des œuvres, justement. Notamment, finalement, on sait qu'un CD, on va le payer, par exemple, 15 euros. Savoir dans ces 15 euros, finalement, combien vont aux artistes, mais aussi aux différents intermédiaires, notamment les musiciens, le compositeur, etc.
Alors, D'abord, il faut se méfier des moyennes dans ce domaine-là. Hein. C'est-à-dire que sur le prix de vente de gros d'un disque, hein, bon, il y a une partie qui va au détaillant du disque, hein, mais sur le prix de vente de gros d'un disque, il y a environ 4% en moyenne qui vont aux artistes de toutes sortes, hein, sur le prix de gros, hein, donc sur le prix de détail, pardon, sur le prix de vente au détail, ça fait 7 ou 8% peut-être du prix de vente en gros, hein. Mais c'est distribué selon de façon extrêmement inégalitaire selon les artistes. Et le modèle qui a existé pendant presque toujours sur la production des œuvres était un modèle plus on en vend, plus on gagne sur chaque exemplaire, hein. Un modèle qu'on peut appeler plus que linéaire. C'est-à-dire, si vous, par exemple, si vous écrivez un livre, vous allez toucher 8% du prix hors taxe jusqu'à 5000 exemplaires, 10% jusqu'à 10 000, 12% au-delà. Hein, dans le disque, ces statuts sont rendus encore plus extrême, ce qui fait que la très très grande majorité des musiciens ne touchent en fait que la compte initiale, et les mécanismes de comptabilité des frais qui existent par la suite vont faire que tout se passe comme s'ils étaient payés au cachet au départ. Hein. Bon, maintenant il y a d'autres. Après, il y a une distinction très importante entre la situation des auteurs-compositeurs et celle des artistes-interprètes, qui explique par exemple que les sociétés d'auteurs se soient divisées, hein, puisque le rôle des droits dans les revenus des auteurs-compositeurs est plus important que dans les revenus des artistes-interprètes. Donc, maintenant, pour prendre l'autre aspect, c'est quelle est la répartition de la chaîne de valeur ajoutée au sein de l'édition musicale traditionnelle. Elle est dans l'activité d'un grand éditeur comme les majors. Vous avez plus ou moins entre 40% et 60% vont à la promotion. Et cette part n'a cessé de croître. La part consacrée à promouvoir des titres. Et évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas équitablement répartie sur les titres aussi. Et ça, dans d'autres médias, ça serait encore plus vrai. Il y a une partie qui va évidemment aux frais de gestion de ce genre de structure et au profit. Il y a une partie qui va à la recherche, à ce qu'ils appellent le art and repertoire, donc la recherche des gens qu'on va éditer. Et il y a la rémunération des auteurs et puis il y a des coûts de distribution. La part des coûts de distribution, évidemment, elle tend sans arrêt à se réduire, d'une part parce qu'on a réduit l'offre pour ce qui est la distribution sur support, et puis quand on passe à la distribution immatérielle sur Internet, alors les coûts de distribution sont très réduits. Si votre auditeur veut vraiment regarder ça, il y a une étude d'un économiste qui s'appelle Michel Gensolen, c'est G-E-N-S-O-2-L-E-N, qui a fait vraiment un tableau. Moi, je cite tous les chiffres de mémoire là, et je peux faire des approximations ou des erreurs, mais lui, il a fait une étude où votre auditeur trouvera des tableaux très détaillés, non seulement de cette répartition de la chaîne de valeur ajoutée dans le cas de la musique, mais aussi de son évolution dans le temps, qui est très instructive.
D'accord. Sur la gratuité,
peut-être ouais. Un dernier point. Donc sur les 99 cents d'un titre iTunes, l'ensemble des artistes de toute nature touchait 4 cents, mais la plupart des contrats qu'ils ont signés sont tels qu'en fait ils n'envoient jamais la couleur. C'est-à-dire c'est leur producteur et éditeur qui ramasse l'argent.
Dans le genre que il y a eu la grève des scénaristes d'Hollywood, et notamment pour des questions de droits sur les DVD et sur les diffusions internet où ils touchaient rien du tout. Ce qui était d'ailleurs très intéressant parce qu'en fait ils touchaient rien sur les diffusions internet. Au titre que l'éditeur lui-même ne touchait rien sur la diffusion internet et qu'en fait c'était une sorte d'appel, de produit d'appel pour acheter les DVD. Donc c'est l'argument était très amusant puisqu'en fait d'un côté ils combattent le téléchargement sur internet et d'un autre côté ils disent que ça fait vendre des DVD. Donc c'est totalement contradictoire.
Peut-être ce qui est intéressant à voir dans cette comparaison avec les États-Unis, c'est qu'en fait les États-Unis ont fait un choix de statut, de travailleurs culturels pour l'essentiel des acteurs artistiques et techniques de la production des œuvres. Ce qui a longtemps été considéré comme un signe d'asservissement de ces acteurs par rapport à la situation des choix des droits des auteurs. Mais aujourd'hui, on aboutit à une situation qu'en Europe, on a les inconvénients des deux systèmes. C'est-à-dire, en pratique, les revenus réels sont de plus en plus de l'ordre du cachet et du salariat, et d'un salariat et de cachet assez mal payés. On continue à invoquer néanmoins les statuts des droits, mais qui représentent une part de plus en plus réduite. Et là encore, il y a des études du département des études et de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture qui couvrent l'ensemble des filières de tous les médias et qui montre que si on accepte certains domaines de la production audiovisuelle, le livre et certains aspects de la photographie, dans tous les autres champs, on a une part massive qui cesse d'être dépendante des royalties. La part des revenus qui proviennent de royalties au pourcentage sur des ventes ne cesse de diminuer.
D'accord. On va réécouter un petit morceau, puis après ça, on va attaquer les différents mécanismes qui sont mis en œuvre par ailleurs ou qu'on peut imaginer pour comme alternative à tout ça.
Thank you.
Donc Symbiose de retour sur Radio Libertaire, bien sûr. Donc nous sommes avec Philippe Aigrin, qui nous a parlé pour l'instant de beaucoup de musique, mais de culture en général. Et on a fait un peu un tableau des problématiques et ce genre de choses. Et donc maintenant, il va nous parler de la façon, enfin de système de mutualisation, de financement alternatif. Parce qu'aujourd'hui, on a dressé un tableau parfois un petit peu angoissant. Mais bon, on ne va pas s'arrêter là, quoi.
Ben, d'abord, il ne faut pas penser que l'idée de mutualiser à l'échelle d'une société des ressources, notamment des ressources financières, pour financer la création ou ce qui rend possible la création, soit nouvelle. En fait, la culture ne s'est jamais développée autrement. Le mécénat, qui a été pendant longtemps une des formes dominantes du soutien aux conditions à la création, était un mécanisme un peu particulier et élitiste et qui pouvait soutenir qu'un nombre réduit de créateurs, mais c'était un mécanisme de cette nature. Il a d'ailleurs sa place à jouer encore aujourd'hui dans le champ contemporain. Mais dès qu'on a été dans l'ère des sociétés démocratiques, les grands mécanismes ont été des mécanismes où on met ensemble des ressources et on n'astreint pas ces ressources à dépendre du produit d'une activité ou d'un bien particulier. Ce qui ne veut pas dire que on ne va pas avoir une indexation des soutiens sur l'intérêt que le public porte au produit d'une activité. L'équilibre entre l'argent qu'on donne à différents champs artistiques, la distribution des soutiens à l'intérieur de ces champs artistiques, dans certains cas, ça va dépendre directement des ventes ou de l'accès. Dans d'autres cas, ça va être une politique un peu plus programmatique et il y a des raisons à ça. Alors, à l'extrême, on peut dire il y a deux systèmes extrêmes. Un qui dit moi je vais faire dépendre l'existence d'une création de l'espoir de profit qu'un investisseur peut en retirer. Ça, c'est un modèle de financement microéconomique de chaque projet par des investisseurs. Ce modèle, il existe, il continuera à exister, mais il est sévèrement limité dans le champ culturel par l'inconnu profonde de ce qui peut être intéressant au niveau culturel. Ce qui fait que la culture, ça naît d'une offre broussaillante qui se développe dans tous les sens de types d'approches et c'est pour ça qu'on dit, parfois les économistes disent, les objets culturels, les œuvres sont des objets d'expérience. C'est-à-dire on peut savoir ce qu'ils valent que quand on les a expérimentés, quand on les a écoutés, visionnés, oui. etc. Et c'est ça qui rend absurde l'idée de les cacher derrière des barreaux, parce que s'ils sont derrière des barreaux et qu'on les a pas encore expérimentés, ils n'ont pas de valeur.
Voilà. Donc il y a aussi, dans ce modèle-là, il y a une grosse limite qui est de considérer la valeur de l'œuvre à une valeur financière. Alors qu'au final, une œuvre d'art et la culture en général, on l'expliquait au début, c'est bien plus que simplement une valeur d'échange.
Bien sûr. Et évidemment,
on
sait que ça va pas produire n'importe quel type d'œuvre.
Voilà. Et à coup de marketing et de millions, on peut créer toute pièce.
Disons, on se doute que je pense qu'il continuera toujours à y avoir une place pour ce modèle. Mmh. Dans certains champs, notamment techniques et d'innovation, il a sa valeur. Dans le champ culturel, pourquoi pas. Donc c'est pas du tout pour dire que c'est toujours absurde, mais il est clair que comme modèle dominant, il y a rien de plus absurde. Mais surtout, ça s'est jamais fait, et si ça se faisait, ça se mettrait à ressembler à ce à quoi ressemble la télévision financée par la publicité. Je crois que le modèle de qu'on peut le deuxième modèle extrême, c'est on dit ah, on va assurer les conditions de vie des individus, on leur donne à tous un revenu d'existence, alors soit explicitement, soit en se débrouillant pour qu'ils aient assez d'argent et de temps libre, etc. Et puis ils feront, c'est eux qui feront ce qu'ils veulent de leur temps, ils l'affecteront s'ils veulent à de la culture, s'ils veulent à d'autres choses, et puis avec ça, ils vont créer des choses, et puis ces choses, on va les mettre en. Elles vont se reconnaître dans une sphère culturelle, elles vont être évaluées. Bon. Ce modèle-là, il est absolument essentiel pour toute une série d'activités, par exemple l'expression citoyenne. Je vois mal qu'on finance individuellement tel ou tel projet pour dire à toi, exprime-toi. Hein, l'expression citoyenne sur le devenir politique ou le devenir d'une société, on est bien content que ça soit, disons, entre guillemets, à la portée de n'importe qui. Et c'est devenu une réalité que ça soit à la portée de n'importe qui à travers l'émergence d'Internet, des blogs et de choses de ce genre. Mais entre les deux, il y a toutes les zones qui sont les zones les plus intéressantes, qui sont les mécanismes qui doivent s'adapter aux propriétés différentes des formes de création. C'est pas la même chose de faire un film, même si aujourd'hui il y a des mécanismes pour produire des films à bas coût qui sont en train de révolutionner la création cinématographique. On n'empêche que faire un film, ça reste un travail qu'on planifie, qu'on organise, pour lequel le rôle du producteur en tant que personne qui trouve des ressources et qui vérifie qu'elles sont bien utilisées est très important. Hein. À l'opposé, écrire un livre, écrire un livre. Ça se fait souvent sans même savoir s'il va être édité. Bon, pas toujours. Hein. Parfois, on a des acomptes, mais pour avoir des acomptes, faut être déjà reconnu d'une certaine façon comme susceptible d'écrire un livre. Bon, on est dans un registre qui relève de l'activité intellectuelle, mais en réalité, s'il s'écrit des livres, c'est parce que il y a des conditions de travailleurs intellectuels qui sont financées. Hein. Les livres, ils sont très largement écrits par des gens qui font un autre métier que d'écrire des livres et pour lequel souvent écrire un livre est une espèce de consécration ou d'activité parallèle. Hein, de ça. Mmh. Bon, la musique, c'est un peu entre le cinéma et le livre. Hein. La musique, c'est il se produit. On dit qu'il y a 1610 disques qui ont été, ou même peut-être 1260 la dernière année, qui ont été édités en France. Ça, c'est parce que les majors ne comptent que leur propre édition. Mais avec les labels indépendants, on a un ordre de magnitude de plus du nombre de disques. Mais si on regarde tous les disques qui ont été édités par les gens eux-mêmes, aujourd'hui, enregistrer un disque dans des conditions semi-professionnelles, faire 1000 ou 3000 copies d'un CD, c'est à la portée du petit groupe d'individus.
Mmh. Et puis la technologie a évolué de telle, en 10-15 ans, le prix du matériel est. Et sa capacité a augmenté considérablement. Aujourd'hui, on peut vraiment faire de la musique de très bonne qualité pour un prix très raisonnable.
Et donc, dans le champ de la musique, si vous voulez, le rôle du producteur n'a pas la même importance que dans le champ. Alors évidemment, il y a des projets musicaux, si on veut enregistrer la symphonie des mille de Mahler, ou si on veut faire un projet hyper sophistiqué du plan de la production musicale, ça demande peut-être de la production au sens classique, et puis il y a de plus en plus de médias mixtes, hein, mais néanmoins, on voit qu'il y a des besoins différents. Et comme les besoins disons les ce qui est nécessaire pour que la création existe diffère selon les domaines. On a depuis toujours inventé des mécanismes différents pour mutualiser les ressources. Par exemple, la commission d'avance sur recettes pour le cinéma, c'est un mécanisme de mutualisation de ressources. Hein. C'est en partie financé par le succès des films et en fonction du succès des films, mais la somme globale disponible, elle dépend de combien il y a de spectateurs qui vont aux caisses des cinémas, mm-hmm. Point. Hein. C'est un mécanisme très global. Et comme il faut décider en amont dans ce mécanisme-là qui va avoir l'avance, hein, donc ça relève d'une espèce de gouvernance par des comités de choix, etc. Alors, il y a des gros problèmes. Dès que vous avez une gouvernance par un comité qui décide de tel ou tel choix, vous allez avoir des débats sur l'abus de pouvoir, sur les biais, etc. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait une espèce de débat public autour, qu'il y ait un espace critique qui dit sur comment est utilisé l'argent correspondant. Aujourd'hui, avec Internet, on a ces mécanismes-là, on doit trouver leur équivalent dans la sphère de la diffusion libre des œuvres qu'est Internet, avec des contraintes qui sont un peu différentes. C'est-à-dire que prélever une taxe à chaque fois qu'on entre sur un billet de cinéma, c'est pas un coût de transaction supplémentaire. Hein. De toute façon, vous payez, il faut qu'on vous rende la monnaie. Bon, il y a une petite taxe sur le billet, c'est intégré à la billetterie. C'est pas dans Internet ce genre de choses. Si chaque fois qu'on veut écouter un morceau, il y a une taxe comme ça, il y a un coût de transaction, un coût de contrôle, un obstacle à l'accès à l'œuvre qui est considérable parce qu'on perd les vrais bénéfices de l'espace de l'information, c'est-à-dire la possibilité d'essayer de sans arrêt expérimenter dans cette sphère, expérimenter dans l'écoute, expérimenter dans l'usage. D'accord. Et donc, c'est pour ça que c'est des nouveaux mécanismes du type de la licence globale qui existent sous plein de formes et qui c'est pas pour dire que la licence globale est une espèce de solution magique où il y aurait pas à explorer dans le détail pour éviter des effets pervers comment elle doit être conçue. Hein. Évidemment, le jour si on l'a voté une première fois, moi je pense qu'on la revotera une autre fois. J'espère qu'on la votera sous sa vraie forme, c'est-à-dire qui donne des droits aux usagers et pas aux fournisseurs d'accès, hein, parce que ça, c'est une distinction fondamentale, c'est que la licence globale, on dit que c'est un mécanisme de compensation. Moi, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi aucun créateur aurait besoin d'être compensé comme s'il avait subi un dommage du fait qu'on a écouté, visionné ou lu ses œuvres. Hein. Moi, je m'estime récompensé quand quelqu'un a fait ça. Par contre, il a besoin d'être rémunéré, il a besoin d'être financé pour écrire l'année prochaine,
ça, etc. Surtout les musiciens, notamment, on a eu pas mal de musiciens qui sont venus à l'émission. Et c'était quelque chose d'assez récurrent, c'est-à-dire cette idée qu'ils faisaient de la musique sous licence de libre diffusion, mais qu'ils auraient bien aimé un système qui leur permette de... non pas de devenir richissime, mais d'avoir un peu de revenus. La question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui existe comme initiative en France notamment, et pour quel modèle, quel type de modèle ?
Alors, aujourd'hui, je prétends pas connaître toutes les initiatives qui peuvent exister en France sur ces sujets, mais ce qu'il y a de certain, c'est que... avec quelques amis qui avaient déjà joué un rôle dans la coordination de la société civile au moment des débats sur la loi d'AFSI, on a décidé de créer à nouveau une initiative visible qui s'appelle la Quadrature du Net, qui est se veut un espèce d'espace de rencontre et de fédération des gens qui à la fois s'opposent au projet en matière de contrôle, de surveillance, d'atteinte aux libertés. Ça, c'est des jugements de valeur, mais que je suis capable d'étayer, qui ont pu être annoncés et qui en même temps veulent qu'il y ait un débat ouvert sur d'autres types d'approches. Hein. Et le débat, il n'est pas là pour dire on ne veut pas les projets, alors on demande un débat. Nous pensons réellement qu'il y a une occasion exceptionnelle à l'heure actuelle, en France et plus généralement en Europe, voire même à l'échelle internationale, pour remettre les choses à plat sur qu'est-ce que c'est la contribution possible d'Internet et des techniques de l'information au développement de nouvelles formes de la culture. Et moi, je constate avec un très grand plaisir qu'il y a des professions qui traditionnellement avaient été assez facilement instrumentalisées par les grands groupes de détenteurs de droits, comme les professions cinématographiques, qui ont fini par se dire elles-mêmes, ça suffit, maintenant on va essayer de prendre à bras-le-corps nos problèmes et d'essayer de concevoir des solutions. Et des rapports, moi j'ai pas eu encore le temps de lire en détail le rapport qu'on appelle du Club des 13, qui est un rapport qui a été fait par un ensemble de gens qui se représentent toutes les professions, les métiers du cinéma réalisateur, mais aussi des professions techniques, même aussi des producteurs, je crois. Bon, ce rapport qui dit, bon, il faut remettre à plat les mécanismes d'aide, parce que ceux qu'on avait conçus avant, d'abord la commission d'aide d'avance sur recette, puis les mécanismes d'aide qui reposaient sur le financement par les chaînes de télévision, premièrement, ils sont usés, hein, et deuxièmement, ils ont, notamment pour le financement par les chaînes de télévision, c'est jamais très bon d'être adossé à un média qui est structurellement en crise et qui en plus est la principale cause de vos problèmes, hein, dans le cadre du cinéma. Hein. Donc, ils ont enfin pris leur problème à bras le corps. Ils font des propositions. Moi, j'ai pas eu le temps de les répertorier. La commission Attali, qui malgré son économisme endiablé sur plein de sujets, abordait le numérique et la culture avec une compréhension de beaucoup de phénomènes, a proposé également des mécanismes spécifiques d'aide à l'audiovisuel pour compléter la licence globale, parce qu'il faut, on est dans un univers de complexité. Il ne faut pas s'imaginer qu'il va y avoir une solution magique qui va régler tous les problèmes. Il y a besoin de s'adapter aux besoins spécifiques de métiers, de filières, de médias. Voilà.
D'accord.
Alors, on a créé une initiative qui s'appelle La Quadrature du Net. Que veut dire le titre? Il veut dire, c'est un hommage à l'entêtement absurde avec lequel les producteurs de normes juridiques essayent de faire des choses qui marchent pas en les compensant par une nouvelle chose qui marchera encore moins. Donc, ils sont comme les mathématiciens, mais qui, eux, avaient plus d'excuses en leur temps, qui essayaient absolument de faire la quadrature du cercle jusqu'à que, après des millénaires d'efforts, on arrive à démontrer que c'était impossible. Et on souhaite aux producteurs de normes juridiques de s'en rendre compte un peu plus vite et d'accepter d'ouvrir un débat de société.
D'accord. Alors nous, enfin, des questions un petit peu sur ces systèmes, parce qu'on a des systèmes, on va faire vite, hein, mais on a en place des systèmes de financement, ce genre de choses qui ont largement été, comment dire, détournés, corrompus, etc. En quoi le fait d'en mettre de nouveau en place va garantir que ces nouveaux systèmes vont pas être détournés à nouveau? Parce qu'on a finalement quelque chose qui va être régulé par l'État ou par le public, ce genre de choses. Les majors et le lobby ont déjà réussi à détourner ce qui existait avant. Enfin, la SACEM, dans le principe, il y a des aides pour la création musicale et des tas de machins, etc. Ils peuvent le refaire avec le nouveau système. Alors, parce qu'une des choses qui je pense que je peux parler pour David aussi, nous intéresse dans le livre, c'est un peu ces systèmes autorégulés où chacun est responsable de ce qu'il fait et où on est à la fois dans l'action, c'est-à-dire notamment dans le logiciel libre où les gens sont à la fois à réfléchir au logiciel, donc à faire de la régulation, etc., mais aussi à faire du logiciel. Et on n'est pas dans un système où on va avoir des experts d'une chose qu'on ne fait pas, en fait. Et du coup, qui nous semble.
Ouais. Alors c'est une question très valable. Évidemment, l'initiative sociétale et les outils qu'elle se donne jouent un rôle essentiel. Ben, par exemple, s'il y a la légalisation des échanges sur Internet et qu'il n'y a même pas en même temps construction de communautés d'information musicale ou d'information filmique qui mettront en œuvre des nouveaux moyens pour reconnaître ce qu'ils estiment être de la qualité ou pour le promouvoir, pour développer des nouvelles démarches artistiques, des rôles qui sont joués, ça existe déjà aujourd'hui dans le champ de la musique. Un label, c'est ça, hein, en réalité. Hein. Les communautés comme Dogmazik, qui sont des regroupements de labels, jouent aussi ce rôle. Hein. S'il n'y a pas ça, il ne se passera rien. Mais maintenant, croire que ça suffirait et qu'on pourrait en quelque sorte abandonner le champ de qui a des ressources et qui fait les normes juridiques, ne plus s'en préoccuper, le laisser vivre sa propre vie, je pense que ça serait une erreur majeure. Le propre des spécialistes, des gens qui réfléchissent au bien commun dans le champ de la culture et de la connaissance, c'est qu'ils doivent tout le temps mécontenter tout le monde. Alors moi, quand je vois des libéraux, je suis obligé de leur expliquer, mais attention, s'il y a de la culture, s'il y a de la production de connaissances, c'est parce que il y a de la mutuelle, il y a du social qui fonctionne. Hein. Donc vous pouvez pas, si d'un côté vous dites ah c'est super la culture et les connaissances, mais que de l'autre vous étouffez les ressources du social. C'est une catastrophe. Mais en même temps, quand je parle disons libertariens du libre, hein, et qui disent, qui ont vu pendant 30 ans les États ne produire que des normes en dépit du bon sens pour des intérêts particuliers. Évidemment, c'est très humain qu'ils disent ah mais je les abandonne à qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Nous, on va construire les alternatives. Mais quand il s'agit de passer à l'échelle, quand il s'agit d'atteindre de plus faire un espèce de petit élitisme des pratiques alternatives, mais d'être capable d'y faire entrer des publics qui sont encore captés par les mécanismes actuels de canalisation de la création, là, on a besoin de ressources qui n'ont plus rien à voir pour passer à l'échelle. Et le rôle de l'État, comme organisateur de la collecte de ces recherches, comme processus démocratique de production de normes qui servent un peu l'intérêt général, il peut être en crise, mais on ne peut pas l'abandonner. On n'a pas le droit de l'abandonner à son propre sort. Il est absolument nécessaire de le régénérer. Et évidemment, les prochaines choses qu'on va mettre en place, elles seront aussi l'objet d'abus. Ça, c'est le principe même de toutes les constructions humaines que de pouvoir faire l'objet d'abus. Donc
c'est un appel à l'investissement politique.
Oui.
D'accord. Bon, on va s'arrêter là. On va laisser la place à champ contre champ. Philippe Aigrin, merci beaucoup. Et on va se quitter en musique. Et merci à David qui a fait la technique pour la première fois aujourd'hui et qui, je crois, s'en est bien sorti.
Merci à vous.
Voilà. Merci. Et à dans un mois.